à Bruxelles, reçue par la présidente de la Commission européenne, l'image d'une Europe aux côtés de ce président d'un pays toujours en guerre.
Thank you so much.
Merci beaucoup, chère Ursula. Merci pour votre soutien. C'est une journée importante.
Depuis la rencontre entre Trump et Poutine, Volodymyr Zelensky ne s'était pas encore exprimé, notamment sur ce plan proposé par le président russe, soutenu par le président américain, le partage de l'Ukraine. En jaune, les terrains occupés par les Russes. Vladimir Poutine veut prendre le contrôle total de la région du Donbass, c'est-à-dire Donetsk et Lugansk. Il veut également geler la ligne de front dans les régions de Zaporijjia et Kherson. Volodymyr Zelensky n'y est pas favorable.
La constitution ukrainienne rend impossible l'abandon d'un territoire ou des terres en Ukraine. La question territoriale est extrêmement importante et elle ne peut être discutée que par les leaders russes et ukrainiens lors d'une réunion trilatérale avec les États-Unis.
En échange, et c'est aussi l'objet de la visite du président ukrainien en Belgique, il doit y avoir des garanties de sécurité. Pour en parler aujourd'hui, s'est tenue une réunion de la coalition des volontaires en visioconférence.
L'objectif de cette réunion, très clairement, est aussi d'être complètement clair au sujet des garanties de sécurité que nous voulons.
Des garanties de sécurité un peu à la manière de l'OTAN. L'article 5 de l'OTAN, la défense collective. Si un pays membre est attaqué, c'est considéré comme une attaque contre tous les pays. C'est le système qui pourrait être mis en place en Ukraine.
L'Ukraine ne doit pas rester une proie possible pour les envahisseurs. Nous saluons la volonté du président Trump de contribuer à des garanties de sécurité similaires à celles prévues dans l'article 5 pour l'Ukraine. Et la coalition des volontaires, y compris l'Union européenne, est prête à faire sa part.
Si nous sommes faibles aujourd'hui avec la Russie, nous préparerons les conflits de demain.
Et demain, Volodymyr Zelensky sera aux États-Unis pour y rencontrer Donald Trump, leur dernier tête-à-tête, dans le bureau ovale, avait viré au cauchemar. Cette fois-ci, il ne sera pas seul. La présidente de la Commission européenne, le président français, le chancelier allemand et le premier ministre britannique seront à ses côtés.
L'Union fait la force, pour reprendre la devise de sept pays, dont le nôtre. Et le message, c'est tous derrière Zelensky, même si les Américains voudraient que les Européens fassent pression sur le président ukrainien pour signer justement l'accord qui lui sera mis sur la table. Et puis, c'est un signal après le revirement hier de Donald Trump. Juste avant le sommet en Alaska, le président américain disait « Je veux un cessez-le-feu, sinon je serai très mécontent ». Il passe 3 heures avec Poutine et puis en sortant, il dit « Ben non, finalement, pas besoin de cesser le feu, mais un accord de paix, qui au passage est quand même beaucoup plus compliqué à négocier ». Et ça, c'est exactement la position de Vladimir Poutine, qui veut gagner du temps sur le champ de bataille. Or, pour Kiev et les Européens, c'est l'inverse, et c'est ça qu'ils vont venir redire demain, c'est qu'il faut d'abord cesser les combats pour ne pas négocier sous la pression des armes. Et on l'a entendu, il y a encore quelques heures à peine, Volodymyr Zelensky l'a redit à Bruxelles, d'abord un cessez-le-feu. En ça, on voit que les positions des uns et des autres n'ont pas changé. Mais sur l'instant, non. Vladimir Poutine veut le Donbass, donc Luhansk et Donetsk, dans l'est de l'Ukraine. Il contrôle pour l'instant environ 75% de cette région. Et il voudrait qu'on lui offre sur un plateau les 25% restants qu'il n'arrive pas à conquérir militairement. Pour Kiev, c'est hors de question. Et pour les Européens aussi, ils viennent de le redire, il faut garantir l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Alors on entend maintenant via le négociateur américain Steve Witkoff que Vladimir Poutine aurait fait, lors du sommet en Alaska, des concessions territoriales, mais on n'en sait pas plus. Et puis sur les garanties type OTAN, là aussi l'incertitude demeure. Les Américains attendent des Européens un engagement réel, physique, militaire, financier, mais quel sera le leur? Est-ce que les États-Unis vont aller jusqu'à faire la guerre contre la Russie pour protéger l'Ukraine? Beaucoup en doutent.
Merci.
d'information du côté de la Maison-Blanche, c'était déjà le cas pour le sommet d'Anchorage de vendredi dernier, mais quelques fuites du côté de la presse européenne. Le journal allemand Bild assure que Donald Trump veut d'abord voir Volodymyr Zelensky seul, en tête à tête. Ensuite, les dirigeants européens viendront se joindre à eux, puis il y aura un dîner de travail élargi. Donc il y aura bien un face-à-face entre les deux présidents américains et ukrainiens. Donald Trump y tient, les Européens le craignent, mais le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, a assuré aujourd'hui, il a pris un peu les devants, il a dit que si les Européens venaient à Washington, ce n'était pas pour entourer Volodymyr Zelensky et lui éviter une nouvelle séquence humiliante dans le bureau ovale comme en février dernier, mais bien parce qu'ils y sont invités et qu'ils viennent pour travailler avec les Américains. Marco Rubio, justement, l'a redit aujourd'hui, si les Européens viennent à Washington, c'est parce qu'ils sont invités, qu'il y a vraiment une volonté d'administration Trump de travailler avec eux. Vous savez, le président américain se rend compte qu'il ne pourra pas, ça sera très difficile d'imposer un accord de paix si les Européens sont totalement exclus des négociations. Donald Trump a cette grande capacité de s'adapter à toutes les situations pourvu que ça serve ses intérêts, et son intérêt là, c'est que ça avance. Il avait promis le retour de la paix dès son arrivée à la Maison-Blanche en janvier. 7 mois après, ce n'est toujours pas le cas. Donc si inviter les Européens et leur donner une petite part dans ce processus, eh bien, ça fait avancer les choses. Donald Trump est prêt à le faire, mais encore une fois, si le déroulé de la journée de demain annoncé dans le Bild se confirme, il veut garder la main dans le processus. C'est lui le maître du monde, c'est lui le faiseur de paix. C'est cette image qu'il veut laisser en réunissant tout le monde, mais il a encore la main sur le processus.
Le sida, un fléau depuis des années en Russie, particulièrement dans les prisons et l'armée.
Il y a des viols aussi, il y a des brimades, il y a ce qu'on appelle la dedovshchina, mais vous savez, dans l'armée russe. C'est ce système qui a existé sous l'Union soviétique et que l'armée russe n'arrive pas à éliminer. C'est le système en fait d'humiliation des jeunes par les plus âgés.
Et puis il y a les conditions désastreuses dans les hôpitaux de campagne.
On nous a emmenés à l'hôpital, entre guillemets.
Par manque de matériel, les seringues sont réutilisées soit pour la consommation de drogue, soit pour les transfusions sanguines, sans aucun test sida.
Voici comment notre mère patrie bien-aimée prend soin des soldats. Voici la réalité.
L'Ukraine teste tous les prisonniers russes. 20% d'entre eux sont séropositifs. Un virus qui contamine aussi les soldats ukrainiens, comme le raconte Alexei, ancien prisonnier des Russes.
Ils prélevaient du sang sur 195 personnes avec la même seringue.
La principale organisation qui accompagne les malades du sida en Ukraine s'inquiète.
Cette propagation de l'épidémie de sida devient aussi un problème ukrainien à cause du comportement des soldats russes, à cause du viol comme arme de guerre sur la population ukrainienne, y compris ceux qui vivent dans les zones occupées par l'ennemi ou tout près de la ligne de front.
Officiellement pourtant, un test positif au sida est une cause d'inaptitude au service militaire.
Il faut bien dire que Poutine s'en fiche, l'État est prioritaire et la vie humaine et les conditions sanitaires et les hôpitaux et la médecine passent dans les pertes et profits.
Moins de 50% des patients VIH sont pris en charge en Russie.